Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Le Ridon et Nicolas Sendé, réalisée par Anna Olweck et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin de la Biélorussie puisqu'en début de semaine, le président biélorusse a rencontré son homologue russe à Sotchi alors que les manifestations se poursuivent dans le pays. Après sa réélection contestée, Alexandre Loukachenko va donc chercher de l'aide à l'extérieur pour tenter de se maintenir au pouvoir. Mais Vladimir Poutine est-il enclin à lui tendre la main? En a-t-il seulement les moyens? La Biélorussie sera-t-elle le nouveau terrain d'ingérence pour la Russie par lequel le chef du Kremlin pourrait encore étendre son influence dans la région? Et comment l'Europe peut-elle répondre à ce nouveau défi? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Tatiana Kastrivajan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, vous dirigez le Centre Russie. À nos côtés également, Cyril Brett, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être là. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et puis co-auteur du blog eurasiaprospective.net. Avant d'ouvrir ces questions autour de cette crise au Bélarus, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin et nous revient de Martinique, c'est Claire Ménial, bonjour.
Bonjour Florian.
Grand reporter au point, Claire Ménial. On vous reçoit pour ce reportage consacré aux médecins cubains dont on va parler parce que la crise du Covid-19 a remis au jour évidemment une pratique assez classique, on va le voir, de la diplomatie cubaine qui consiste à envoyer des brigades médicales pour soutenir les pays en crise. Et il se trouve que la France, justement, a reçu une aide en la matière de manière relativement discrète puisqu'une quinzaine de médecins est allée soutenir le CHU de Fort-de-France. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette mission humanitaire, je mets des guillemets, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'humanitaire mais de politique et de géopolitique même. Ça fait longtemps que vous suivez ce dossier, vous en avez rencontré des médecins, des déserteurs aussi du côté du Brésil, du Venezuela, de la Bolivie, du Nicaragua. Comment se fait-il qu'on ait besoin, nous en France, en Martinique, de médecins cubains? Est-ce que l'urgence sanitaire et le manque de médecins sur place est si prégnant qu'il fallait faire appel à eux?
Alors justement, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ils arrivent à un moment de creux dans la crise du Covid. Donc le CHU s'est posé la question et l'ARS s'est posé la question de suspendre cette mission. Et puis finalement, ils ont décidé d'en faire quelque chose de plus long terme, d'essayer de combler des manques de spécialistes au CHU. Alors après, quand on compare, c'est vrai que le nombre de médecins par habitant en Martinique est faible, mais c'est pas le pire par rapport à d'autres régions françaises.
On avait essayé quand même de prendre des dispositions il y a quelques mois pour pallier ce manque de médecins, notamment il y a un décret qui a été signé, mais visiblement qui n'a pas eu les effets escomptés. On a toujours du mal à attirer des médecins en Martinique.
Oui, c'est un gros problème. En fait, la plupart, comme ils vont faire l'internat en métropole, ne rentrent pas. Donc, faire venir des médecins de la région, de la Caraïbe, qui connaissent le chikungunya, la dengue, Zika, les ouragans, enfin des choses auxquelles peuvent être confrontés les habitants en Martinique, et donc à Cuba, est un atout, c'est vrai.
Il y a certaines voix du côté de la Martinique qui considèrent qu'en réalité tout cela est un coup politique. C'est la formule qui est notamment utilisée par la sénatrice Catherine Conconne que vous avez rencontrée.
C'est elle-même battue pour le décret au départ, mais pas pour une application sous cette forme-là.
Donc c'est une décision qui a été prise par le conseil exécutif de la Martinique, dont le président est Alfred Marie-Jeanne. C'est un coup politique ?
C'est vrai que leur efficacité est quand même très très faible pour un coût estimé à 300 000 euros. Enfin, à partir d'eux, ils ne parlent pas français. Ils ont forcément un retard technologique puisque Cuba a un niveau d'équipement qui correspond à son niveau de développement, c'est-à-dire très faible. La plupart des médicaments, ils ne les connaissent pas. On a un vrai problème de secret médical puisqu'il faut des traducteurs. Donc oui, de fait, c'est pas ça qui va sauver la Martinique. Pas 14 médecins envoyés pour 3 mois.
Ils ont le statut de stagiaire. Donc en réalité, ils peuvent pas prendre en charge les médecins.
Impossible. Non, ils ont pas été même... Le Conseil de l'Ordre n'a pas validé leur statut parce qu'en effet, ils ne peuvent pas pratiquer.
Sur leurs compétences, on entend plein de choses sur les médecins cubains, parfois que ce sont d'excellents médecins. On a même entendu quelqu'un ici en France, que je ne citerai pas, expliquer qu'ils avaient le vaccin contre le cancer du poumon. Et puis parfois, on nous dit qu'ils n'ont pas forcément les compétences requises. On arrive à évaluer leur niveau, là, par exemple, ces médecins cubains qui sont en Martinique?
Alors, ce qui est sûr, c'est que Cuba mise sur une médecine de prévention, c'est-à-dire beaucoup de petits dispensaires de proximité. On est censé pouvoir repérer les maladies avant qu'elles se développent trop. Enfin, leur grand argument, par exemple, c'est c'est la prévention du diabète. En revanche, tous les chiffres sont absolument impossibles à vérifier, en particulier la mortalité infantile, qui est le grand argument des Cubains pour mettre en avant leur médecine. Les chiffres sont extrêmement problématiques. Il y a des chercheurs qui ont prouvé que le ratio entre mortalité fœtale et mortalité infantile, c'est-à-dire à la naissance, est d'à peu près 1,84 pour l'ensemble de la planète. Mmh. À Cuba, il est de 6. C'est extrêmement étonnant, puisque les raisons pour lesquelles on perd un bébé in utero sont à peu près les mêmes que celles pour lesquelles vous les perdez à la naissance. C'est les raisons génétiques, environnementales, etc. Et c'était une méthode qui était utilisée par l'Union soviétique. C'est très difficile de savoir en réalité quel est le niveau de la médecine cubaine. Les généralistes qui sont formés par centaines de milliers, sont très reconnus, et la plupart des accords internationaux, les brigades internationalistes, comme on les appelle, en général, vont combler ces manques-là. Au Brésil, ils étaient en Amazonie, à la frontière vénézuélienne, dans des endroits où aucun médecin brésilien n'a envie d'aller, et ils sont très reconnus pour leur chaleur humaine, pour le fait qu'ils s'adressent avec beaucoup de patience, de compassion aux patients, etc. Les spécialistes, c'est vraiment très difficile de savoir.
Quand on se place du côté de la Martinique, on peut comprendre qu'on accueille des médecins cubains. Il y a d'abord une proximité géographique et culturelle, évidemment. Il y a par ailleurs, en Martinique, toujours des forces, disons, autonomistes, anticolonialistes, qui travaillent l'ensemble de la société. Donc, on peut comprendre que même dans l'imaginaire, en réalité, la révolution cubaine représente quelque chose. Et donc, on a envie, finalement, d'accueillir des médecins cubains. Mais quand on réfléchit au niveau de l'État français, c'est évidemment un geste politique très fort que celui de recevoir des médecins venus de Cuba. C'est quelque chose qui a été validé par la diplomatie française ?
Alors, d'après ce qu'on m'a dit, ça a été validé par le Quai d'Orsay, par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Intérieur et par l'Élysée. Il y a quand même un petit problème, c'est que Cuba fait l'objet de 2 plaintes à la CPI pour esclavage à cause de ce procédé. Il y a un rapport de Human Rights Watch qui parle d'esclavage également. Il y a 2 rapporteurs de l'ONU qui ont adressé une lettre au gouvernement cubain en s'inquiétant de ces pratiques. Donc, de fait, on est en train de valider un système qui est vraiment problématique. Ils sont extrêmement surveillés. Le 15e de la brigade n'est pas médecin mais administrateur. C'est celui qui est chargé de surveiller, de bien s'assurer que personne ne déserte. Et d'ailleurs, en Andorre, la brigade qui est venue en Andorre, il y en a 2 qui ont déserté.
On va revenir justement sur ce point, mais vous disiez, ça a coûté combien à la France ?
De ce qu'on sait, 300 000 euros.
300 000 euros.
C'est très difficile de savoir. 300 000 euros, je pense que ça comprend l'avion, l'hôtel, les repas, les transports vers le CHU. Et les 23 euros d'indemnité, mais qui sont de l'argent poche, qui sont versés sur un compte au Crédit Agricole, qui ne peuvent pas sortir. C'est de l'argent qui ne peuvent pas sortir vers Cuba. Ça a été très compliqué de trouver une banque qui accepte, étant donné les sanctions, évidemment.
Il se dit que là, sur seulement la crise du Covid, il y a 3000 médecins cubains qui ont été envoyés de par le monde. C'est très difficile d'avoir des chiffres précis, mais c'est une évaluation. Ça rapporte combien à Cuba,
alors,
cette diplomatie médicale ?
Cuba a été forcé de publier des chiffres depuis à peu près 2010 parce qu'ils avaient vraiment des chiffres à l'exportation qui étaient énormes, et par ailleurs il fallait justifier le manque de médecins sur l'île. Il y a très très peu de médecins sur l'île. Ils sont utilisés pour être exportés. Comme m'a dit un médecin guyanais qui refusait absolument ce système, c'est de l'exportation de matériel humain. Vraiment, ils appellent ça comme ça. Donc maintenant, on évalue les derniers chiffres qui ont été publiés. C'est le Bureau des statistiques cubains. C'était en 2018 $11,299 milliards en missions diverses. Il faut enlever à peu près 1,3 milliard de tourisme. Enfin, les missions, c'est 10,3 milliards. Les missions médicales, c'est quelque chose autour de 7 milliards de dollars.
Donc c'est beaucoup plus que le tourisme en réalité.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui, évidemment, c'est énorme. Alors c'est difficile de savoir le nombre de médecins envoyés exactement. Les chiffres officiels tournent entre 400 000 et 600 000 depuis le début du programme dans les années 60 avec la guerre d'Algérie et tremblement de terre au Chili. Voilà,
c'est ça que j'allais vous demander, parce que c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau.
Alors, pas du tout nouveau. C'est la grande phrase de Fidel désignant les États-Unis. Ils fabriquent des bombes pour les envoyer sur le monde. Nous produirons des médecins pour les envoyer sauver le monde. C'est un formidable coup de com.
Mais depuis une quinzaine d'années, c'est reparti un peu à la hausse. On a remis au goût du jour, d'une certaine manière, cette diplomatie médicale.
Alors, ça repart à la hausse avec l'accord signé entre Hugo Chavez, qui venait d'arriver au pouvoir au Venezuela, et Fidel. Au départ, ça concerne surtout le Venezuela, mais ça s'étend aux autres pays de l'ALBA, les pays alliés. sachant que le Venezuela est vraiment un cas particulier puisque les médecins servent à payer le pétrole. L'accord de 2000, c'est que le Venezuela verse à Cuba environ 100 000 barils par jour, à peu près $25 le baril, remboursable en 17 à 25 ans avec un taux d'intérêt de 1%, une période de grâce de 2 ans, autant dire cadeau. Donc c'est payé en médecins, en gros. Il y en avait, au pic de l'activité, il y a eu à peu près 30 000 Cubains au Venezuela, dont à peu près 20 000 médecins.
Vous en avez rencontré justement des médecins qui ont travaillé au Venezuela et qui ont déserté. Il y en a un notamment que vous avez rencontré qui est du côté du Brésil, qui s'appelle Yarenis, je crois. Ouais. Comment se passait sa mission au Venezuela?
Alors, en fait, les missions vénézuéliennes, elles ont aussi cette particularité qu'elles sont extrêmement politiques. Et c'est ce qui déplaît beaucoup aux Cubains, outre le fait que les conditions matérielles sont extrêmement dures. Elles sont presque pires qu'à Cuba aujourd'hui. Hein. On a du mal à se procurer des aliments. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus rien au Venezuela. Mais donc, ils sont très, très surveillés donc par le chef de brigade, et qui lui-même rapporte au coordinateur, au administrateur, ça dépend comment on l'appelle.
Qui est en fait un membre du renseignement.
Du parti. Et donc ils ont des missions qui consistent à ce qu'ils appellent scanner les opinions politiques des quartiers dans lesquels ils sont. Ils ont une classification suivant que les gens sont chavistes, c'est-à-dire diagnostic sain, anti-chaviste, malade ou diagnostic réservé quand on ne sait pas vraiment ce qu'ils votent. Et ils ont des consignes réellement qui sont donner des médicaments aux chavistes. En 2013, on les a vraiment envoyés faire ce qu'ils appellent du terrain pour dire aux gens, tu sais que si tu votes pas bien, t'auras plus de médicaments. C'est le moment où Chavez est mort, Maduro était présenté pour l'élection, on n'était pas du tout sûr que ça fonctionne. Ça a été clé pour le modèle chaviste, pour les réélections.
Mais ils soignent accessoirement ou pas?
C'est des généralistes très attentifs. Ah oui, bien sûr. Alors, en revanche, en Bolivie, on en a sorti 700. Selon le gouvernement, qui, à nouveau, il faut le prendre avec des pincettes, ce gouvernement bolivien intérimaire, mais 200 seulement étaient médecins. Le reste, c'était du renseignement. Des conseillers politiques, militaires, enfin.
Des déserteurs, vous en avez rencontré dans un certain nombre de pays. Ouais. On a une idée du taux de médecins qui, justement, désertent, quittent ces missions.
Très difficile à dire, mais rien qu'entre 2006 et 2010, par exemple, il y en a 1600 qui ont demandé l'asile aux États-Unis. C'est vraiment, il y en a beaucoup, en fait, qui s'inscrivent aux missions dans le but de pouvoir déserter, puisque pour les médecins, c'est très compliqué de sortir de l'île, sinon. Il faut des autorisations. Mais oui, c'est très répandu, et c'est en général vraiment dû à un désaccord politique avec le système de l'île, puisque sur un plan économique et matériel, ça correspond vraiment à une amélioration pour eux, le fait de pouvoir travailler en mission. Même si le salaire est très bas, il est bien meilleur que ce qu'ils sont payés à Cuba.
Hypothèse, si par exemple un médecin là, qui est allé donner un coup de main du côté de la Martinique, demandait l'asile, évidemment, on lui donnerait.
Très bonne question, j'ai demandé au préfet qui m'a dit oui, nous examinerons la demande d'asile.
Le Brésil aussi, peut-être un mot, Claire Méniel, sur ce pays, parce que le président Bolsonaro n'est pas franchement un fan de Cuba. C'est évidemment un président d'extrême droite, on a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises ici à ce micro il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'il pense de la présence des médecins cubains dans son pays? Parce qu'il y en a quand même pas mal.
Alors précisément, lui, il a dit... et à nouveau, c'était un gros problème parce que ces médecins cubains étaient dans des régions où aucun médecin brésilien n'a envie d'aller. Lui a dit, moi je veux bien qu'ils restent, mais je veux les payer en direct. Je veux plus valider ce système d'esclavage. Donc Cuba a rappelé ses 8300 médecins, dont presque 2000 ont choisi de rester. Ils ont déserté, ils sont restés sur place.
Vous disiez qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées aux Nations Unies?
Oui.
Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose?
Enfin, devant la CPI.
Devant la CPI, est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Ou une pression de la communauté internationale, je mets des guillemets à la formule, est possible ou...
C'est possible, mais c'est très difficile. Enfin, la narration est absolument imparable. De l'envoi de médecins pour sauver le monde, c'est extrêmement difficile à combattre comme discours. C'est très bien élaboré. Alors, cela dit, dans la plainte de Prisoners Defenders, il y a quand même 662 médecins déserteurs qui parlent d'esclavage. Et là-dedans, il y a des cas de... Moi, j'ai parlé à une jeune femme qui a été violée par le coordinateur, par exemple. Enfin, c'est quand même des histoires lourdes. Par ailleurs, ceux qui désertent ne peuvent plus rentrer sur l'île pendant 8 ans. Alors, évidemment, on vous dira, ça, évidemment, ils ont choisi de déserter, c'est leur problème. Mais ça veut dire que quelqu'un dont la vieille maman est en train de mourir sur l'île n'a pas le droit d'y aller.
Réaction peut-être sur place avec nos invités Tatiana Castrovajan, Cyril Brett et Marc Semo sur ce cas, sur cette diplomatie médicale cubaine. Tatiana Castrovajan.
Bah, c'est je découvre certaines choses, je connaissais
pas. J'ai découvert beaucoup de choses aussi. On connaît très mal ce sujet.
C'est vrai que aller à la rencontre de ces personnes, d'écouter les histoires personnelles, il y a toujours la diplomatie de l'État et il y a la traduction en fait très concrète sur les répercussions, sur le destin des gens, sur leur vie personnelle, la santé, etc. Donc c'est un récit que je trouve bouleversant.
Cyril Brett.
Ah oui, je partage ce qui vient d'être dit. Ça nous rappelle aussi à nous, Français de métropole, à quel point la Martinique, l'archipel de Guadeloupe sont inscrits dans un espace, dans cet arc anti-Guyane qui est très proche et très très lointain, qui a ses propres réalités, ses propres forces, ses propres contraintes, et où Cuba cesse d'être une puissance très éloignée, une puissance symbolique très éloignée, est un voisin qui déploie des politiques, une vraie fascination.
Le modèle révolutionnaire.
Et je pense que pour nous, les Français de métropole, il est bon de se souvenir que nous avons des compatriotes qui sont exposés en fait à ce genre de contraintes et à ce genre de fascination.
Alors, j'ai pas pu m'empêcher de souligner l'ironie, parce que quand j'y étais, on était en plein déboulonnage de statues liées à l'esclavage. Et donc, je demandais aux gens, est-ce que vous êtes au courant qu'en fait, Cuba est attaquée pour esclavage dans ce système qui est utilisé ici? Et les gens étaient relativement perplexes. Bon, la plupart du temps, la réponse n'a rien à voir. Et il y a alors un aspect du soft power cubain qui est très intéressant dans les Antilles, c'est la musique. Vraiment, on vous dit Cuba égale salsa. Et quelques médecins généralistes opposés à ce système, la phrase clé était « Non mais Cuba, c'est pas que la salsa ». C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un nombre de prisonniers politiques impressionnants, dont beaucoup pour dangerosité prédélictive, comportement contraire à la morale socialiste.
Marc, c'est bon.
Moi, je suis très curieux maintenant de voir qu'est-ce qu'il en sera de la plainte devant la Cour pénale internationale pour esclavage. Parce que ça va être ça qui est aussi très fascinant.
Merci beaucoup Claire Ménial pour ce papier absolument passionnant. Et il y en a un autre aussi qui était formidable que j'ai lu, on n'a pas eu de temps malheureusement de tout aborder, mais sur le Brésil, parce que vous êtes allé dans les favelas de Rio et de São Paulo, et où on fait preuve d'une très grande solidarité mais aussi ingéniosité, inventivité pour répondre à cette crise du Covid. Et il y a notamment un portrait formidable de René Silva, qui est un petit gars des favelas qui est devenu vraiment une figure mythique, icône.
Formidable, il a monté son journal pour l'école, il avait une dizaine d'années, une petite photo, là, ils ont tous des petits t-shirts siglés, et c'est devenu une ONG qui distribue des paniers repas. Mais ouais, il y a un dynamisme incroyable. Alors là, pour le coup, on est exactement à l'opposé du modèle de l'axe bolivarien, il n'y a strictement aucune aide pour les gens qui se débrouillent.
Merci beaucoup, Claire Ménial, d'être passée dans
nos
studios.
C'est toujours un plaisir.
C'est plaisir partagé, on peut évidemment retrouver vos reportages sur le site dupoint.fr. Merci beaucoup, Claire Ménial.
Merci.
Tropical, la luna caliente y la noche tan bella. Quiero ir a caminar a la orilla del mar, a pasear con mi amor, a sentirme feliz y a contar estrellas.
Ce groupe cubain Orquesta Acocan qu'on tourne cette page. On prend la direction maintenant de la Biélorussie, crise au Bélarus. Une aubaine pour Poutine, c'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque depuis plus d'un mois maintenant, les manifestations s'enchaînent en Biélorussie pour dénoncer la reconduction de son président Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994, s'il vous plaît. Jusqu'ici, l'autocrate avait fait preuve de la plus grande fermeté, mais face à la poursuite des contestations, il a décidé d'aller chercher de l'aide auprès de Vladimir Poutine, le grand frère, qu'il a reçu en début de semaine dans sa résidence de Sotchi, au bord de la mer Noire.
Nous sommes convaincus que les Biélorusses doivent résoudre cette situation entre eux par un dialogue calme et parvenir à une décision commune sur la marche à suivre sans aucune incitation ni pression de l'étranger. Vous avez agi de manière très honorable et décente, c'est pourquoi je vous remercie en personne et je remercie les Russes en général qui étaient prêts à nous soutenir pendant cette période post-électorale.
Alors, comment décrypter la chose? Comment comprendre le message de Poutine? Est-ce qu'il est prêt à aider Loukachenko? Avec quelle contrepartie Vladimir Poutine pourrait-il profiter de cette nouvelle crise pour faire aboutir son vieux projet consistant à intégrer la Biélorussie à la Russie? C'est une ancienne ambition qu'il avait dû abandonner face aux réticences de son homologue. Nos invités, Tatiana Kastueva-Jean et Cyril Brett, vont essayer de nous aider à y voir plus clair. Notre partenaire, le vendredi, Marc Semo du Monde. On va commencer avec vous, Marc. Pour le moment, alors, on voit pas vraiment de signe d'essoufflement dans les mobilisations en Biélorussie, et d'une certaine manière, tant mieux. Chaque week-end, on voit des milliers de personnes se rassembler, en particulier dans la capitale Minsk, et en particulier d'ailleurs les femmes, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Loukachenko a répondu avec énormément de fermeté, pour pas dire carrément avec de la brutalité, et pourtant tout cela se poursuit, et cet enlisement en réalité offre peut-être une opportunité pour Poutine pour accroître encore son influence. Peut-être.
Plus qu'une aubaine, ça ressemble plutôt à un sérieux casse-tête. Alors, l'ancien lieutenant-colonel du KGB, Poutine, a toujours eu un profond mépris pour l'ex-directeur de Sovkhoz, ferme collective, Loukachenko. L'autocrate de Moscou s'est toujours aussi méfié de son homologue de Minsk, qui a refusé, comme tu le disais, une intégration plus poussée de son ex-république soviétique à la Russie. Et surtout, Loukachenko n'a jamais entériné les faits accomplis du Kremlin dans son étranger proche, aux dépens de la Géorgie ou de l'Ukraine. Et en outre, Loukachenko a toujours eu un jeu très ambigu avec l'Union européenne. Mais Vladimir Poutine aime encore moins les soulèvements populaires qui refusent des résultats électoraux manifestement truqués et surtout quand ils veulent balayer un autocrate. Donc c'est un très mauvais exemple, d'autant que Poutine lui-même est de plus en plus contesté. On le voit avec les manifestations à Khabarovsk, dans l'extrême-orient soviétique. Et il perd de la popularité dans les classes moyennes urbaines. Alors, l'homme fort du Kremlin, malheureusement, a assez peu de marge de manœuvre. Ne rien faire est impossible, agir potentiellement contre-productif. La Biélorussie n'est pas l'Ukraine, un pays où il y avait une forte tradition indépendantiste, un pays coupé en deux, entre un ouest qui était austro-hongrois et un est russophone, dont Moscou a attisé la rébellion. En outre, les protestataires de Minsk, les dirigeants de l'opposition à Minsk, se gardent bien de mettre en cause les liens avec la Russie et d'évoquer toute marche vers l'Union européenne ou vers l'OTAN. Alors, ce pari d'une révolution autolimitée sur le plan géopolitique suffira-t-il à rassurer le Kremlin? Cela a marché il y a 3 ans en Arménie, mais la situation est différente. Les dirigeants démocrates arméniens sont dans une situation où, face à l'Azerbaïdjan, Transcaucasie isolée, ne peuvent refuser l'ancrage avec la Russie. Évidemment, pour la Biélorussie, c'est totalement différent. C'est un pays qui est adossé à l'Union européenne.
Voilà, donc le décor est posé. Tatiana Kastueva-Jean, Marc disait, ne rien faire n'est pas possible de la part de Poutine. Force est de constater que c'est un peu ce qui s'est passé depuis le début de la crise, ne rien faire. Est-ce que cette réunion justement de Sochi a changé quelque chose dans la matière? Est-ce que vous avez compris quelque chose de ce que Poutine est prêt à donner à Loukachenko?
C'est vrai qu'au début de la crise, on voyait que la réaction de Poutine se faisait attendre. Il y a eu presque des signes contradictoires. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères Lavrov avait dit « il faut discuter avec son peuple, il faut discuter avec les protestataires ». Et en même temps, Vladimir Poutine, après avoir mis un certain temps, a dit qu'il y avait des troupes spéciales, policières, qui se tiennent à disposition pour partir en Biélorussie si jamais les protestations dégénèrent. Il y a eu aussi des journalistes russes qui ont été envoyés, une trentaine de journalistes de RT, envoyés en Biélorussie pour remplacer les journalistes biélorusses démissionnaires. Donc il y a eu ces signes de soutien au niveau informationnel, au niveau militaire. Et récemment, après donc le rendez-vous Loukachenko-Poutine, il y a eu aussi l'annonce d'un crédit, de l'aide financière, même s'il faut relativiser. A posteriori, il a été dit que cette aide sera sera moindre. Et la Biélorussie a énormément de dettes à l'égard de Gazprom, à l'égard de la Russie. Donc, la majorité de ce crédit ira à couvrir cette dette.
1,3 milliard d'euros.
Voilà. On voit bien un soutien qui est assez prudent. Le problème pour Vladimir Poutine, c'est que Loukachenko n'est pas du tout un partenaire facile. Marc Semon l'avait mentionné. Le refus d'accepter une base militaire aérienne sur son territoire. Le refus de l'intégration plus poussée avec la Russie, etc. En fait, il a toujours réussi à rouler en quelque sorte Poutine en prenant le maximum, en donnant le minimum.
Sauf qu'il n'était pas déstabilisé à l'intérieur de ce pays.
Sauf qu'il n'était pas déstabilisé.
Là, ça change la donne.
Absolument. Et la situation actuelle, justement, ramène un peu Loukachenko dans les bras de Vladimir Poutine. Sauf que Poutine, il faut quand même qu'il réagisse avec beaucoup de prudence pour ne pas apporter la dimension anti-russe là où il n'y en a pas. Parce que la population biélorusse est très bienveillante à l'égard de la Russie. Et il n'y a pas d'humeur anti-russe, il n'y a pas de problème de langue comme dans le cas de l'Ukraine. Quand on regarde Loukachenko parler à son peuple, il parle russe. Les leaders de l'opposition comme Tikhanovskaya parlent russe aussi, en s'adressant à la population. Donc le cas de figure est très différent du cas ukrainien. Et donc je pense que le mouvement brusque, comme l'envoi des troupes de la part de Poutine, mais je pense depuis le début que c'est un scénario qui n'est pas possible, ou un énorme crédit qui irait vraiment, qui se déverserait dans l'économie biélorusse, ce serait contre-productif, comme l'a très bien remarqué Marc Semon. Ouais.
Cyril Brett, vous êtes d'accord? C'est vrai qu'on a tout de suite envie de faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui en Biélorussie et ce qui s'est passé il y a quelques années en Ukraine. Or, c'est vrai que tout cela s'était soldé avec une intervention militaire de la Russie. Aujourd'hui, vous êtes d'accord pour dire que c'est absolument exclu s'agissant de la Biélorussie?
Oui, les caractéristiques de la Biélorussie sont très différentes de celles de l'Ukraine. La taille démographique, évidemment. La dépendance économique aussi, qui est beaucoup plus forte dans le cas de la Biélorussie, puisque la Russie est le premier fournisseur, notamment... d'hydrocarbures, et le premier client notamment de produits agroalimentaires de la Biélorussie. Une intervention trop massive, qu'elle soit militaire, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit politique ou diplomatique, aurait été contre-productive aussi en matière de réaction internationale et de réaction régionale de la part des pays riverains, donc Pologne et les trois Baltes, qui outre le fait qu'ils sont membres de l'Union européenne, ont largement poussé à l'adoption de sanctions envers les responsables de la répression en Biélorussie, auraient tiré encore plus parti d'une réaction russe pour demander un raidissement de la part de l'OTAN et de la part des États-Unis en pleine période électorale. Ça aurait été effectivement très contre-productif, et là l'abstention relative des autorités russes dans cette crise s'explique par la recherche du juste dosage pour à la fois préserver les intérêts géopolitiques de la Russie, qui sont évidents et massifs, et pour conserver les appuis à l'intérieur du pays.
Marc Semon, et ensuite Tatiana
Kosevjan. C'est quand même un jeu très difficile, parce que l'opposition, a commencé par Tikhanovskaya, disent et éludent à chaque fois la question de quitter l'orbite russe. En même temps, même si on ne dit pas le mot, il y a une évidente dynamique de cette protestation populaire qui regarde vers l'Europe, d'autant que la raison pour laquelle il y a eu aussi cette révolte, c'est que les Biélorussiens vont en Lituanie, vont en Pologne, ils savent ce qui se passe dans le reste du monde. Donc est-ce que ça va pouvoir tenir longtemps? Et est-ce que c'est pas ça qui fondamentalement fait peur à Poutine? C'est-à-dire, quel que soit ce que ne disent pas ou voudraient même les dirigeants de l'opposition, cette peur de la pression populaire, après tout, si les pays de l'Est ont adhéré à l'UE et surtout à l'OTAN, c'est pas parce que l'OTAN machiavélique voulait à tout prix s'étendre vers l'Est, c'est parce que c'était les populations qui y voyaient leur seule garantie de sécurité et d'échapper à l'orbite russe. Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique qui nécessairement va échapper et qui nécessairement fera que Poutine devra réagir?
Et moi, la question que je veux poser, c'est du coup, est-ce que vraiment on regarde autant que Marc le dit vers l'Ouest, vers l'Europe? Parce que là aussi, le jeu de comparaison peut être intéressant avec l'Ukraine. Sur l'Euromaïdan, on avait des drapeaux européens. Là, absolument pas. Il semble pas, en tout cas dans le décorum des manifestations,
non, mais ils sont pas suicidaires.
On voit pas ça.
Sauf que ils ne sont pas idiots au point de brandir des drapeaux européens, ce qui serait la ligne rouge, mais dans les têtes, je pense que c'est peut-être un peu différent.
Alors on va voir, Tatiana Kosevjan.
Je pense que c'est assez complexe. Moi, je ne situe pas ce qui se passe en Biélorussie aujourd'hui dans la lignée des révolutions de couleur qui ont acquis notamment dans la tête de Vladimir Poutine, une dimension géopolitique extrêmement forte. Là, je pense que nous sommes dans d'autres types de protestations, où on peut aussi classer ce qui s'est passé en Arménie il y a 2 ans, la Moldavie, même si les cas de figure sont extrêmement différents. Je pense très honnêtement que 30 ans après la chute de l'URSS, les systèmes, les modèles qui se sont créés dans ces pays touchent à leur fin, en quelque sorte. Il y a une nouvelle génération qui a grandi. Il y a, pour moi, une contradiction profonde entre l'archaïsme des modèles sociaux, économiques et politiques qui subsistent encore dans ces pays-là et le dynamisme des sociétés qui sont aujourd'hui des sociétés extrêmement connectées, avec les frontières ouvertes. Ils voyagent, ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Ils suivent les élections aux États-Unis, en France. Ils se posent la question, mais pourquoi chez nous, c'est tellement figé? Et donc, cette nouvelle génération ne voit plus pourquoi continuer à vivre dans les anciens modèles. Donc, c'est un peu la fin naturelle de ces modèles-là. Et ceux qui n'arrivent pas à s'adapter peuvent en payer les frais d'une manière extrêmement forte, ce que commence à ressentir aussi le président Loukachenko.
Mais est-ce qu'il y a l'ambition d'accrocher le futur modèle davantage justement à l'Europe, comme le sous-entendait Marc?
On le voit très peu, on peut le supposer, mais en vérité, il n'y a pas cette dimension anti-russe, pro-européen, etc. Je pense que oui, en effet, il y a une demande de système plus ouvert, plus démocratique, mais sans forcément dire que c'est le modèle européen qu'on veut, surtout que le modèle européen, dernièrement, même avec la crise du Covid, montre quand même aussi ses limites. Et dans la crise biélorusse, c'est très intéressant quand on fait le parallèle avec l'Ukraine, il y a beaucoup de différences. Il n'y a même pas, par exemple, énormément de dénonciations du système corrompu ou du système oligarchique. C'est autre chose, en fait. C'est juste 26 ans au pouvoir de Loukachenko, les problèmes des modèles économiques et sociaux et aussi la gestion chaotique de la crise du Covid qui en fait ont fait ressortir tous ces problèmes qui sont inhérents, internes à ce modèle biélorusse.
Cyril Brett.
Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui à Minsk, ce n'est pas une révolution géopolitique, c'est bien une révolte de la société civile. L'Ukraine, en 2015, s'était placée elle-même dans le choix entre Union européenne ou Fédération de Russie. Enfin, Union Eurasiatique. Aujourd'hui, la Biélorussie est plutôt dans un choix beaucoup plus simple qui est avec ou sans Loukachenko. En revanche, c'est la nuance que j'aurais avec ce que vient de dire Tatiana Jean, il est évident que l'influence de l'Union Européenne, du miracle économique polonais, où travaillent beaucoup de Biélorusses, bien évidemment. La circulation des informations, par le biais des réseaux sociaux notamment, joue un rôle déterminant dans la nouvelle génération qui accède aujourd'hui aux responsabilités et sont des aspirations de société civile, bien plutôt que des aspirations à rejoindre un bloc d'influence qui se manifeste aujourd'hui dans les rues de Minsk. Donc j'en reviens à la comparaison qu'on fait entre Ukraine et Biélorussie. L'impetus, l'élan, c'est d'abord et avant tout une aspiration de la société civile à mener une vie débarrassée de Loukachenko et du système qui, c'est 1994, hein, si j'ai bon souvenir, son accession au pouvoir, a figé le pays dans une gêne matérielle prononcée et dans une absence de liberté politique qui n'est plus à caractériser. C'est vraiment un régime fossile qui restait en place à Minsk.
Mais Marc Semo.
Alors justement, si la situation continue, le mouvement s'enlise. Est-ce que, face à un Poutine qui, de fait, devient de plus en plus le gardien, le protecteur de Loukachenko, la dynamique même du mouvement, qui est effectivement un mouvement de société civile où on se garde bien de poser la question géopolitique, ne finira pas nécessairement par ça? Et, deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, Poutine peut trouver en Biélorussie le leader alternatif qui serait quelqu'un de l'opposition, mais relativement pro-russe, il y a plusieurs noms ont circulé, et qui donnerait cette garantie que l'on change Loukachenko, on ravale la façade, mais tout en permettant à la Russie, comme en Arménie, de garder sa mainmise.
Il existe ce profil, Tatiana Kastevajan?
Je vais commencer d'abord par répondre. Le mouvement s'enlise. Je pense que c'est peut-être un peu aussi sur ça que compte Loukachenko et Poutine, que les choses durent, que l'arrivée de l'hiver et sortir tous les week-ends pour manifester, qu'il y a un essoufflement. C'est vrai qu'il y a une sorte d'impasse politique en ce moment. Ça ne bascule pas. Il y a une sorte d'équilibre qui s'est installé pendant plusieurs semaines, équilibre politique qui est fragile quand même, où les manifestants, ce mouvement mouvement protestataire souffre d'une part d'absence de leaders, dont une partie est déjà c'est les leaders qui ont émergé un peu au dernier moment, au cours de cet été, comme Tikhanovskaya, qui a réuni les votes contestataires. Et une partie est en prison, une autre partie est à l'étranger. Et puis en fait, le programme, c'est là où on revient sur la question de l'Union européenne, le programme commun, c'est on veut plus de Loukachenko. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Qui propose un modèle politique économique viable pour la Biélorussie, dont l'économie est tellement dépendante de la Russie ? Est-ce que c'est pensable, en fait, de trouver un autre modèle ? Et pour l'instant, il n'y a pas de programme, ça ne va pas au-delà. Tikhanovskaya elle-même a dit « je suis là ». Pour virer Loukachenko, en gros, et organiser la transition, organiser d'autres élections pendant lesquelles il y aura d'autres forces politiques qui vont émerger et apporter un programme pour la Biélorussie. Et je pense que Vladimir Poutine surveille avec beaucoup d'attention ce qui va se passer réellement. Et le problème parfois de la Russie, c'est qu'elle parle toujours dans les pays voisins, mais aussi d'ailleurs, elle parle aux forces au pouvoir, au régime au pouvoir, et beaucoup moins aux forces qui sont dans l'opposition, etc., probablement pour ne pas les légitimer. Il n'y a pas d'autres interlocuteurs, en fait, à part Loukachenko. C'est aussi ça le problème, c'est un peu comme en Ukraine, c'est surtout Yanukovych qui était l'interlocuteur principal. Donc la Russie n'a pas préparé, entre guillemets, Libye pour pouvoir discuter avec un éventuel autre leader de l'opposition. Et il attend comment Loukachenko va gérer cette situation. Y aura-t-il d'autres figures qui vont émerger ? On a parlé, par exemple, de Viktor Babariko, qui était à la tête d'une filiale d'une banque russe, qui serait donc, par définition, quelqu'un qui serait plus susceptible aux intérêts russes. J'en suis pas convaincue. Et puis, Babariko, aujourd'hui, il est pas directement dans le paysage, etc.
Il est en prison, non ?
Il est en prison, voilà. Après, on peut toujours sortir quelqu'un de prison pour en faire une marionnette. Je pense que Tikhanovskaya, c'est un peu le cheval noir. On sait pas trop à quoi s'attendre avec elle, etc. Elle a pas trop la confiance du Kremlin. Donc, voilà, c'est vrai que l'absence de leader de l'opposition avec qui on pourrait parler et qui pourrait à terme remplacer Loukachenko, ça pose problème, y compris dans la stratégie russe au Biélorusse.
Cyril Brett, je vais vous laisser réagir et puis ensuite il va falloir regarder effectivement du côté de l'Europe pour voir ce que l'Europe peut, doit faire, parce que Tikhanovskaya justement était là il y a quelques jours en Pologne, elle a rencontré le Premier ministre, on se dit que c'est pas tout à fait un hasard, on va voir parmi les États membres les plus opposés à la Russie pour essayer, j'imagine, de mettre la pression de sorte à ce que l'Union Européenne à son tour mette la pression maximale sur la Biélorussie. Il y a déjà eu des sanctions ciblées mais il pourrait y avoir plus. Donc je vous laisse réagir dans un premier temps et puis ensuite sur ce que peut, doit faire l'Europe.
Oui, brièvement, le scénario pour les mois qui viennent et donc pour le début de l'hiver, je pense que ce sera un scénario de compromis et non pas un scénario de rupture pour toutes les raisons structurelles qui ont été données. La dépendance économique, l'état d'esprit assez russophile de la population civile locale, le discrédit très profond de Loukachenko qui en fait est un point de blocage plus qu'une menace massive. Et donc je pense que la solution qui va s'élaborer tout doucement, c'est une solution de compromis qui respecte les intérêts géopolitiques de la Russie, sans pour autant entraîner un blocage et une confrontation violente à l'intérieur du pays. Il faut bien voir que la scène politique biélorusse est très concentrée. C'est un pays dont la taille est réduite et surtout qui est très concentré dans quelques villes. Et donc on ne peut pas, comme dans l'Ukraine, aller vers une partition. Nécessairement, la crise sera traitée en bloc et elle sera traitée en équilibrant les intérêts géopolitiques et économiques de Moscou d'un côté et les aspirations qui ont accédé à un statut international de la population civile de l'autre.
Sur l'Europe, jusqu'où doit aller le soutien de l'Europe désormais ?
Oui, alors l'Europe s'est révélée ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une puissance d'influence. Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant évidemment la répression et encourageant l'exécutif européen à adopter une série de sanctions envers les responsables de la répression et envers les responsables politiques. Les parlementaires européens, français notamment, ont invité les leaders de l'opposition à s'exprimer à Bruxelles et à Strasbourg. L'Union européenne, dans son ensemble, prend conscience de sa responsabilité à l'égard de ce qui est un des membres du partenariat européen, la Biélorussie, est lié à l'Union européenne par ce partenariat oriental. Est-ce que ce sont les
sanctions ? Mais au-delà de la prise de conscience, une fois qu'on a pris conscience, on fait quoi ?
On prend des sanctions. en prendre des sanctions.
Comme plus lourdes que celles qu'on a prises jusqu'ici, qui sont des sanctions ciblées.
Oui, bien sûr, qui sont ciblées notamment sur les personnalités et qui sont ciblées sur les intérêts financiers de ces personnalités pour faire pression.
Mais on en prend le chemin là, parce qu'il ne semble pas.
Écoutez, on va voir ce qui se déroule. L'Union européenne prend son temps, c'est une de ses grandes faiblesses, mais quand elle a adopté des sanctions, généralement elle les reconduit et elle est assez systématique dans leur implémentation. Donc c'est une de ses grandes forces. Je pense que c'est le débat qui va être soulevé, notamment à l'initiative des trois Baltes et des Polonais, qui, en plus d'être des voisins, sont en plus les plus réticents à accepter que la Russie décide du destin des sociétés civiles à la place des sociétés civiles nationales.
Tatiana Kastrovajan, sur l'Europe.
Je pense que malgré ce qu'on a dit sur les différences entre le cas biélorusse et le cas ukrainien façonne aujourd'hui nos mentalités et nos réactions, autant côté russe que côté européen. Donc l'Union européenne, il y a certaines choses qui peuvent être interprétées comme la provocation par les Russes, etc. Et je pense que c'est beaucoup dans la tête des dirigeants européens, notamment des pays comme la France et l'Allemagne. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus présents, beaucoup plus actifs, comme les États baltes et la Pologne sur ce dossier, et qui plaident pour les mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus fortes. Alors les sanctions, la Biélorussie était, plusieurs membres de son élite étaient déjà sous sanctions depuis plusieurs années à cause des répressions contre les opposants. Et ces derniers temps, notamment depuis la révolution de Maïdan en Ukraine, la Biélorussie a joué différemment, plus habilement au niveau diplomatique. Son rôle. Minsk a accueilli le processus de Minsk pour le règlement du conflit à l'est de l'Ukraine. Il s'est montré un peu plus clément avec les membres de l'opposition, donc certaines sanctions ont été relâchées. Il est extrêmement difficile de remettre à nouveau la machine en marche pour sanctionner en se coupant de cette manière-là les canaux de communication avec Loukachenko. Je pense que l'Union européenne, et en fait ça signifierait aussi de le pousser encore plus dans les bras de la Russie, hein, ne laissant que la porte russe en fait ouverte. C'est pour ça aussi que l'Union européenne est extrêmement prudente au niveau des sanctions qui n'ont pas encore été annoncées, et surtout Loukachenko lui-même n'est pas sanctionné, il n'a jamais été sanctionné. Il faut pouvoir continuer le dialogue, même avec le chef d'un État qu'on appelait en fait pendant très longtemps le dernier dictateur de l'Europe.
Marc, juste un point. L'Union européenne n'a pas reconnu le résultat des élections.
Non, tout à fait. Mais il n'a pas reconnu non plus Tikhanovskaya comme étant le nouveau président. Donc on est dans une situation.
Voilà. Mais il faut recommencer les élections.
Il faut recommencer les élections, tout à fait. Le résultat n'est pas reconnu, oui.
Encore un petit mot avant de faire une petite pause en dessin, Tatiana Kastrovajan. Ce que disait tout à l'heure Marc, en rappelant qu'effectivement il y a ce vieux projet de Vladimir Poutine, d'une union de la Biélorussie et de la Russie. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, il a essayé de tordre le bras de Loukachenko, en tout cas de l'emmener dans cette ambition de rassembler les deux pays dans un seul et même ensemble. D'autant qu'en plus, ça avait un autre avantage, qui était que ça permettait à Vladimir Poutine, à un moment on en a beaucoup parlé, de quitter la présidence de la Fédération de Russie, tout en gardant en réalité une main mise sur cet ensemble-là. Est-ce que du coup, cette crise en Biélorussie offre justement une possibilité pour cette perspective d'union-là? Bien sûr, en ayant mis entre-temps Loukachenko de côté. Mais vous le disiez, finalement, les Biélorusses sont pas opposés à la Russie, même ils sont plutôt russophiles. Est-ce que du coup, ça redonne peut-être des possibilités pour ce projet-là?
C'est très intéressant. Quand vous regardez sondages en Russie, Loukachenko est plutôt bien vu. Les élections sont considérées comme les élections qui ont été gagnées par le président sortant, etc. Donc la majorité approuve plutôt Loukachenko, est presque, pour certaines personnes, mieux vu que Vladimir Poutine lui-même, parce que la Russie a préservé la stabilité à un certain modèle économique dont certains Russes sont nostalgiques. Mais quand on arrive à la question « souhaitez-vous l'intégration avec la Biélorussie ?», la réponse est non. Il n'y a que 10%, pardon, qui disent qu'ils souhaiteraient l'intégration avec la Biélorussie. Je pense que les Russes ne souhaitent pas aujourd'hui, comme ils disent, d'une manière brutale, payer pour les autres. Et côté biélorusse, il n'y a pas de sondage là-dessus, mais d'après ce que les sociologues quand même peuvent dire, c'est que pareil, il n'y a pas de désir fort pour l'intégration avec la Russie. Et ça, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a d'autres formes d'intégration qui pourraient être possibles, mais en effet, Vladimir Poutine n'a pas réussi à obtenir de Loukachenko ce qu'il aurait souhaité. Et c'est vrai qu'il y avait ce scénario qui a circulé pour la transition en 2024, que Poutine puisse prendre la tête d'un État d'union. Et aujourd'hui, la situation, en effet, elle est plus favorable. Loukachenko affaibli, on peut lui demander beaucoup plus de concessions. Mais une fois de plus, pas trop brutalement, peut-être étaler plus dans le temps, etc. Parce que sinon, on va créer cette dimension anti-russe qui n'existe pas dans la population biélorusse aujourd'hui.
Cyril Brett.
Oui, ce grand projet d'union, c'est un serpent de mer. C'est plus un argument marketing qui a déjà plus de 20 ans, donc qui restera, à mon avis, un projet d'avenir pour très longtemps. Si on regarde quels sont les intérêts structurels, économiques, géopolitiques et militaires de la Russie, elle n'a absolument pas besoin aujourd'hui d'intégrer la Biélorussie dans la fédération elle-même et de réaliser à un coût politique important cette intégration. Elle peut obtenir exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire introduire une zone tampon entre elle et l'Union et l'OTAN de l'autre côté, sans passer par les concessions que les dirigeants biélorusses exigeront pour cette intégration.
Allez, on va faire notre petite pause en dessin, comme je le disais. Chaque vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre sujet du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
En partenariat évidemment avec Cartooning for Peace, ce réseau de caricaturistes du monde entier. Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors le dessin cette semaine, c'est un panthéon sur le point de tomber en ruine, Mélanie.
Oui, absolument. Mais avant de vous le décrire, eh bien, je voudrais faire remarquer une chose. Si la révolution biélorusse a inspiré aux caricaturistes de nombreux portraits de Loukachenko en tyran borné ou en marionnette du Kremlin, de Poutine en parrain malveillant, eh bien peu d'entre eux se sont interrogés sur l'image que cette crise renvoyé aussi de l'Europe. Eh bien, en voici une ce matin. La caricature est signée par un Néerlandais du nom de Tjeerd Royaerts. Elle est parue au tout début de la crise, en août dernier. Et l'image n'est pas flatteuse, puisque vous l'avez dit, ce que nous voyons, c'est un bâtiment sur le point de s'effondrer. Pas n'importe quel bâtiment. Il s'agit d'un panthéon dessiné ici dans le pur style grec ancien avec ses imposantes colonnes, son fronton et sa fresque. Un panthéon érigé à la gloire de la démocratie en Europe, c'est ce qu'on peut lire en lettres capitales gravées dans le marbre et dont chaque colonne symbolise un pays membre de l'Union. Sauf que le temple, justement, eh bien, menace de s'écrouler. Certaines de ses colonnes se fissurent de toutes parts. On voit même des morceaux de pierre qui se détachent. Celles de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne sont particulièrement abîmés et menacent de ne plus pouvoir soutenir l'édifice. On suppose que Royaerts fait ici référence à la fragilisation de l'état de droit et des libertés dans ces pays, aux tentations autoritaires de leurs gouvernants qui non seulement portent atteinte à la démocratie dans ces pays, mais aussi à l'idée, à la valeur démocratique telle que sacralisée par l'Union européenne. Une union, d'ailleurs, bien incapable jusqu'ici de réparer les dégâts. Et c'est ce que symbolise un petit homme au pied du monument. C'est un technicien en bleu de travail. Le drapeau étoilé accroché dans le dos, avec sa petite caisse à outils sous le bras, il contemple les fissures d'un air impuissant. Et pendant ce temps-là, eh bien, une foule surgit à la droite du dessin, des hommes et des femmes agitant le drapeau biélorusse. Ils apportent avec eux les pièces d'une nouvelle colonne qu'ils s'apprêtent à ériger sur un espace vide du Panthéon. Le socle est à peine posé, mais on comprend qu'elle pourrait devenir l'un des prochains piliers du temple, tant la foule semble puissante et déterminée. Un élan populaire et enthousiaste qui contraste amèrement avec le reste du bâtiment, quasiment en ruine et à l'abandon. L'Europe semble nous dire Royaerts serait bien inspiré de s'occuper de ses propres failles avant de dispenser ses leçons de gouvernance au reste du monde.
Merci beaucoup Mélanie Charandon pour ce dessin qu'on met évidemment sur le fil Twitter de Culture Monde, sur la page de France Culture également. D'ailleurs, vous avez remarqué à gauche, le pilier, il est lui parfaitement en place, absolument pas fissuré, et c'est le pilier des Pays-Bas. On aurait pu deviner la nationalité du dessinateur. Réaction Cyril Brett.
Oui. Cette lecture est très stimulante. Moi, je retiendrai plutôt que l'Europe, c'est ce grand monument qui n'est pas achevé et qui impressionne par sa beauté et sa puissance. Des brèches, ça se colmate, et un édifice, ça se complète.
Tatiana Castévajan, ça pose la question évidemment aussi de la transition politique que vous évoquiez un tout petit peu tout à l'heure du côté de la Biélorussie, parce que vous le rappeliez, l'essentiel du programme de l'opposante, c'est réorganiser de nouvelles élections libres et transparentes pour que enfin une vraie transition politique advienne, sauf qu'une transition politique, ça prend du temps. Au regard de l'histoire post-soviétique, Tatiana Castréagent, qu'est-ce qui vous semble être les ingrédients pour réussir la transition?
C'est vrai que avec le temps, quand on regarde en arrière, on voit que finalement, cette transition, après la chute de l'URSS, elle n'est toujours pas achevée. et quasiment dans aucun pays de cet espace post-soviétique. Trois décennies plus tard, en fait, cette idée de la démocratie, surtout ces dernières années, elle a été remplacée, y compris par un effort très volontaire aussi des autorités, par d'autres valeurs qui se sont imposées, comme par exemple la stabilité économique, politique, sociale, etc. Il y a l'idée de compétition géopolitique qui est extrêmement poussée par les gouvernements, aussi l'idée de la défaillance, d'ailleurs ça me ramène au dessin, des défaillances démocratiques, y compris dans les pays, les vieilles démocraties européennes. Donc le problème aujourd'hui, c'est que ce soit les Russes en tout cas, ne voient plus le modèle démocratique en Europe, et encore moins aux États-Unis, comme un modèle vers lequel il faut aspirer. Et il est vrai que, comme si on enlevait la lueur au bout du tunnel, on se disait, ben, finalement, nous, on n'est pas si mal que ça, avec notre stabilité, et les idéaux démocratiques, c'est quelque chose qui, finalement, marche pas tellement. Et on le voit aussi dans les sondages, quand on pose la question sur les premières préoccupations des Russes, par exemple, le respect des droits de l'homme et la liberté de l'expression, ça vient vraiment dans les dernières lignes, avec 3-4% des personnes qui le mentionnent. Les premières préoccupations, c'est le chômage, la situation économique, la santé des proches, etc. Donc finalement, le gouverneur russe dit « moi je tente de répondre à ça, aux préoccupations qui sont les vraies préoccupations, et puis tout le reste finalement c'est assez secondaire, la stabilité avant tout ».
Ouais, il fait comme tout le monde, hein. il gouverne avec les sondages. Marc Semo.
Oui, alors pour rebondir sur le dessin, Condoleezza Rice, qui était la conseillère de sécurité de Bush, avait appelé Loukachenko le dernier dictateur d'Europe. Et la formule avait fait florès. Mais est-ce que justement, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où il n'est plus le dernier dictateur d'Europe? Sans même parler de la question Poutine, on voit, alors ce ne sont pas des dictateurs, il y a formellement des élections, mais quand on regarde notamment Viktor Orban, est-ce qu'il n'y a pas une dérive autoritaire? Et ce qui fait que, la situation a beaucoup changé depuis 15 ans.
Cyril Brett.
La comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais elle est stimulante. Vous venez de souligner à juste titre les risques qui pèsent sur la pluralité dans les médias, la pluralité politique, le contrôle des contre-pouvoirs institutionnels dans ces trois pays, mais aussi dans d'autres. Et là, encore une fois, l'exécutif européen, qui est constitué aussi bien de la Commission que des chefs d'État et de gouvernement, a réagi depuis très longtemps, depuis le début de la présidence Juncker, en étant intransigeant sur la défense de ses principes, jusqu'à menacer de suspendre le versement des subventions européennes. Je pense que, en la matière, l'Union européenne a tout à faire, mais elle a déjà commencé à défendre ses principes, son régime, et je pense que mentionner Condoleezza Rice, qui a été l'apôtre, en fait, du régime change, c'est-à-dire de l'importance de la teneur démocratique des régimes dans les relations internationales, est très bien vu. C'est vraiment ce qui se joue actuellement à Minsk, mais aussi dans les capitales de l'Union européenne, c'est la préservation des mécanismes et des idéaux démocratiques. Il me semble pas que l'Union européenne soit prise en défaut pour le moment sur le sujet.
Et où est-ce qu'on en est justement à l'intérieur de l'Europe de cette bataille? Vous avez vu que, par exemple, le haut représentant de l'Union européenne pour la sécurité et la politique étrangère, Josep Borrell, a là fait quelques annonces sur les évolutions des modalités de prise de sanctions. C'est autour de l'affaire Navalny, il est question que justement on se passe désormais de l'unanimité, mais qu'on puisse prendre des sanctions simplement à la majorité. Cette loi pourrait même s'appeler la loi Navalny, c'est lui qui l'a dit. Mais donc on sent que ce combat-là est en train de se jouer.
Tout à fait. Josep Borrell, le représentant, est une figure de proue de l'intransigeance sur ces questions-là, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il a un langage très clair sur la nécessité de prolonger, voire d'amplifier les sanctions à l'égard de la Fédération de Russie, mais aussi d'inclure Loukachenko dans la liste des cibles des sanctions sur la Biélorussie. Et il a un langage très clair également sur la nécessité de préserver la démocratie à l'intérieur. Il y a un système cohérent, qui est un système européen, qui ne tolérera pas l'autocratie ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et Josep Borrell est vraiment un symbole et une incarnation de cette exigence-là.
Et quels sont peut-être aussi les soutiens qu'il manquerait en Europe? Et là, je pense en particulier à l'Allemagne. Il y a évidemment ce projet Nord Stream qui représente un enjeu géostratégique de premier plan pour Angela Merkel. Les États-Unis mettent beaucoup la pression sur l'Europe pour que suspendre ce projet-là. Du côté d'Angela Merkel, on est un tout petit peu attentif. C'est pas exclu, mais enfin, c'est vraiment un enjeu énergétique très important. Est-ce qu'on sent qu'effectivement, la chancelière allemande est prompte précisément à mettre la pression à la fois sur Poutine, mais à cette question qu'évoquait Marc, c'est-à-dire celle de la préservation des valeurs démocratiques?
Oui, et en fait, ça nous ramène aussi à la question quels sont les leviers qu'on a pour mener une politique, défendre les valeurs démocratiques. Le problème, c'est que ça se réduit beaucoup quand même à la politique des sanctions depuis plusieurs années. Je crois que c'est le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard, cite souvent les chiffres qu'on est passé il y a une vingtaine d'années à six régimes de sanctions, à une petite trentaine aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la multiplication de régimes de sanctions qui sont symboliquement très importants, dont l'effet économique est un peu plus discutable et l'effet politique, souvent, en fait, n'est pas au rendez-vous.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Quel autre levier?
En fait, ça va vous paraître idéaliste, mais je pense que la première chose que je disais, l'absence de lueur au bout du tunnel, c'est déjà faire tout pour préserver notre modèle, pour être cohérent avec nous-mêmes, pour être irréprochable en matière de démocratie, etc. Donc il y a un travail aussi sur l'Union européenne elle-même pour pouvoir s'ériger en modèle et pour pouvoir défendre ce modèle devant les autres. Et la politique de sanctions, je pense qu'en partie, c'est inévitable. Il y a des choses pour lesquelles on ne va pas faire les guerres, envoyer les troupes. On ne peut pas rester non plus sans réponse. Donc, c'est la solution qui n'est pas satisfaisante, mais c'est la solution des sanctions qui s'impose. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'affaire Navalny, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'Allemagne, qui reprend un petit peu le flambeau de la politique russe en Europe, qu'avait comporté, en fait, Emmanuel Macron depuis son élection, avec plusieurs rencontres qui ont ponctué cette relation bilatérale, etc. Et je pense que aujourd'hui, Paris regarde côté Berlin pour voir quelle est en effet la politique, ou plutôt le changement de la politique que l'Allemagne va faire, et notamment par rapport à Nord Stream, qui est un projet géopolitique. C'est une question de passage des volumes du gaz russe plus qu'une question de volume, parce qu'en réalité il y a tous les voies de passage pour passer le volume nécessaire aujourd'hui et même un petit peu plus, sauf que ça passe par l'Ukraine et Vladimir Poutine souhaite que ce ne passe plus, que le transit ne se fasse plus par l'Ukraine, mais contourne sur territoire pour enlever ce levier de pression.
Cyril Brett.
Oui. Sur les sanctions, quand on est les États-Unis, on installe des bases américaines à l'étranger. Quand on est l'Union européenne, on n'a guère que les sanctions économiques et la menace de priver d'accès aux plus grands des marchés et aux plus grandes puissances commerciales du monde. Concernant le couple franco-allemand, sur ce sujet, à l'égard de la Russie, à l'égard de la Biélorussie, mais aussi à l'égard de la Turquie, on voit bien qu'il y a soit une répartition des rôles, soit une incohérence entre les deux capitales. On souhaite que ce soit une répartition des rôles et une complémentarité. Il peut y avoir une incohérence. Car le président français est celui qui est le plus vocal, le plus audible sur les sanctions à l'égard du régime d'Erdogan, à l'égard également de la Fédération de Russie. Il est en cela soutenu par le haut représentant Borrell. Dans ces deux dossiers, l'Allemagne est plutôt une force de modération pour des raisons économiques. L'énergie venant de Russie est évidemment indispensable à la prospérité économique et à l'appareil industriel allemand. Et en matière de sanctions à l'égard de la Turquie, la force de rappel interne à l'Allemagne, c'est évidemment les 4 millions de la communauté turque qui sont à l'intérieur de l'Allemagne. Donc la perspective, c'est uniquement sanctions ou pas sanctions quand on est l'Union européenne. L'influence militaire et l'influence médiatique est évidemment pas comparable à celle des États-Unis ou même celle de la Russie. Et ce qu'il faut souhaiter désormais, c'est une complémentarité Paris-Berlin sur les messages à adresser à toutes ces puissances.
On verra justement si elle vient, cette complémentarité. Merci infiniment à tous les deux. Je rappellerai la Russie de Poutine en 100 questions pour vous, Tatiana Casteva-Jean, et pour vous, Cyril Brett, qui vient de paraître 10 attentats qui ont changé le monde. Des références de livres à retrouver sur la page de Culture Monde. Merci infiniment, Marc Semo, notre partenaire du vendredi. On vous retrouve la semaine prochaine.